Bonjour à tous. Donc, je remercie François et la directrice de l'école, Sophie Mougard, de me permettre de vous donner cette leçon inaugurale. Je suis très heureux de me retrouver ce matin parmi vous, étant un ancien et puis un nouveau aussi, enfin permanent de l'école depuis, disons que j'étais à votre place il y a un peu de temps. Et donc, je suis très, très content de me retrouver en face de vous. Donc, je vais essayer de vous faire partager ma passion pour la mécanique. Je sais que vous allez suivre beaucoup d'heures de cours sur la mécanique. Et pour vous montrer comment cette discipline a finalement été à l'origine de pas mal de, je dirais, de la physique moderne, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers la mécanique que beaucoup d'aspects de la physique ont été élaborés. Donc, pour vous parler de la mécanique, je vais donc commencer par vous présenter les concepts qui me paraissent les plus importants dans notre discipline et qui, en réalité, à la réflexion, sont des concepts qui sont communs à presque toutes les sciences de l'ingénieur. Donc, pas seulement la mécanique. Et donc, au lieu de les décliner, je dirais, de manière actuelle, je préférais plutôt décliner ces concepts en revisitant les grands anciens pour faire un pont aussi entre le passé et le présent et pour mieux voir l'avenir. Donc, on va faire ce petit voyage à travers l'histoire pour voir comment ces concepts ont émergé et comment ils sont toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que ce qui a été fait dans le passé est remplacé. En fait, il est intégré et complexifié de plus en plus. Donc, ensuite, je vous donnerai quelques exemples de recherches que l'on fait actuellement au laboratoire Navier. Je ne vais pas faire une présentation du laboratoire Navier. Je vais simplement parler de recherches que je fais avec quelques collègues. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Plutôt que de vous faire un panorama de toute la recherche à l'école des ponts, au laboratoire Navier. Et puis ensuite, je vais essayer de partager avec vous des réflexions sur comment notre discipline, et je dirais au-delà de ça, les disciplines, on va dire les sciences de l'ingénieur, peuvent évoluer ou peuvent potentiellement évoluer à l'ère du machine learning. Vous avez entendu hier une présentation qui vous dit à quel point ces méthodes vont être transformantes par rapport à l'ensemble des activités. Et donc, comment une discipline scientifique comme la mécanique peut être transformée par le machine learning. Donc voilà le petit voyage que je vous propose de faire. Donc on va commencer par le commencement. Je dirais qu'au début était la mesure, c'est-à-dire que les débuts de la physique moderne, si, alors je vais mettre quelques portraits, mais évidemment c'est toujours des aventures collectives, mais voilà, quand même pour garder quelques noms. Donc, on va dire que on peut dater le début de la physique moderne avec Galilée, parce que Galilée a eu la bonne idée de mesurer les choses pour en déterminer les lois. Et donc la première chose qu'il a essayé de déterminer, ce sont les lois du mouvement. Par exemple, la simple chute d'un corps. Donc, vous voyez ici évidemment la tour de Pise. En réalité, la difficulté pour travailler sur le mouvement la chute des corps, c'est pas tellement de mesurer la distance parcourue, parce que celle-là on peut très bien la voir, mais c'est de chronométrer, c'est-à-dire à l'époque comment je fais pour chronométrer quelque chose qui ne dure que 3 secondes si je fais une chute de la tour de Pise. Et donc une grande difficulté, c'est comment je mesure, comment je quantifie les événements. Et donc ça, préoccupation, elle est permanente, c'est-à-dire qu'il faut faire des expériences Et pour ça, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, etc. Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, on fait des expériences. Pour vous donner juste un peu anecdotique, pas tant que ça d'ailleurs, comment Galilée a-t-il déterminé la loi des mouvements que vous connaissez sans doute, hein, si vous êtes ici, vous avez certainement fait des exercices sur le pendule simple, sur une bille qui déroule sur un plan incliné, donc vous connaissez tout ça. Et ben, comment Galilée a fait pour établir la loi qui permet de déterminer le mouvement d'une bille qui déboule sur un plan incliné? En fait, Galilée, pour mesurer le temps, c'était un musicien, et je crois qu'à Navier, on aime bien les musiciens, et donc il jouait du luth, et en faisant de la musique avec des intervalles de temps constants, qui est donné par sa musique, eh bien, il a installé des clochettes, et quand la bille passait sous les clochettes, ça sonnait, et le jeu était de disposer les clochettes pour que ça sonne au même intervalle de temps donné par son luth. Donc, si vous pouvez aller à la, à la, à la, si vous passez à Florence, vous allez au musée Galilée, vous trouverez beaucoup d'engins comme ça, d'une très grande ingénuité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire avec ce qu'on a, et il avait presque rien, à part son oreille musicale, et il a pu avec ça déterminer des lois du mouvement à partir desquelles on a fait des pendules. D'accord? Donc, voilà. Donc, la nature, bon. Accessoirement, il s'est aussi occupé des trajectoires des boulets de canon, parce que ça amuse aussi de savoir quand est-ce que, où est-ce qu'atterrit un boulet de canon. Donc, il a trouvé que c'était à 45 degrés qu'il faut tirer les boulets de canon. Bon. Donc, autre chose qu'a fait Galilée, très important pour notre discipline, c'est qu'il s'est intéressé à la rupture des matériaux. Donc, il a réalisé des expériences en mettant une poutre en bois encastré dans un mur, et il a mis une charge au bout, et il voulait savoir à partir de quelle charge, eh bien, la poutre cassait. Il a pu déterminer expérimentalement que c'était le moment fléchissant, donc ça, si vous appréhendez ça en résistance des matériaux, eh bien, qui était le moment qui était au moment de l'encastrement, qui était responsable de ça. Donc là aussi, il l'a obtenu de manière expérimentale. Alors, un autre grand savant important pour notre discipline, c'est Blaise Pascal. Donc, à l'époque, certains princes, etc., avaient de grands soucis d'arroser leur jardin, et donc ils demandaient à des gens d'amener l'eau avec des pompes pour pouvoir arroser les jardins. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'eau n'arrivait pas à un certain niveau. Et donc, de fil en aiguille, un savant italien, Torricelli, a fait une expérience dans laquelle il a rempli un tube de mercure. Donc, je pense que vous connaissez cette expérience. Il l'a inversée. Quand c'était fermé, elle était pleine, et il l'a enlevée dans le bain de mercure. Et puis, évidemment, ça descend pas complètement. Il y a un peu, enfin pas un peu, il y a exactement 735 mm de mercure qui reste dans le tube. Donc, comment on explique ça? Donc, certains ont dit, très poétiquement, que la nature a horreur du vide, et donc c'est pour ça qu'elle allait là où il y avait du vide. Donc évidemment, c'est une explication absolument pas scientifique. Pascal, il a imaginé, donc figurez-vous, à cette époque-là, que c'était dû à la pression de l'air. Donc il a imaginé que la pression atmosphérique, c'était une quantité qui appuyait sur ici, de manière à équilibrer la hauteur de la colonne. Et pour convaincre ses compatriotes, la communauté scientifique de l'époque de la pertinence de ses vues, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit, ben, si c'est la hauteur, si c'est la pression atmosphérique qui est importante, et si c'est relié à la hauteur de l'air qu'il y a, eh bien, en allant à la montagne, je vais pouvoir trouvait non pas 735 mm, mais beaucoup moins. Et c'est ce qu'il a fait. Il a amené son dispositif du côté de Clermont-Ferrand, dans le Massif central, sur une montagne. Il a montré que, effectivement, la pression était quelque chose qui dépendait de la hauteur de l'air qui était au-dessus. Donc là aussi, démonstration expérimentale, préconçue, c'est-à-dire qu'en fait, on a une idée de la théorie, on va la vérifier après coup. Deuxième, je dirais, mesure expérimentale très importante que vous connaissez sans doute, hein, vous avez tous fait des exos avec des masses et des ressorts qui vibrent dans tous les sens, donc vous êtes les champions de ça. Celui à qui on doit ça, c'est Robert Hooke. Donc, Robert Hooke est un très grand expérimentateur, chercheur expérimentateur anglais. J'ai pas son portrait, bon, pas parce qu'il est anglais, mais parce qu'il n'y a pas de portrait officiel qui est reconnu. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Hooke? Il a, évidemment, vous le connaissez, le déplacement au bout du ressort est quelque chose qui est proportionnel à la force qui s'exerce et qui est aussi proportionnel à la longueur du ressort. Mais le plus remarquable dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a inspiré beaucoup de recherches après, parce qu'il a montré qu'un corps solide, si je le sollicite, il se déforme. Ça, c'est très grave. Enfin, les conséquences de ça sont très graves. C'est-à-dire que quelles que soient les forces que je mets sur un solide, même si je ne les vois pas, ce corps se déforme. Et c'est ça qui explique que le ressort s'allonge. Parce que si l'élément matériel, le métal, ne s'allongeait pas, ne se déformait pas, eh bien, j'aurais pas cette déformation globale. Donc, voilà. Donc, concept de déformation. Donc, c'est le déplacement sur la longueur. Et puis, le fait que c'est proportionnel à la force. Alors, évidemment, vous avez tous eu des ressorts entre les mains. Le ressort, si vous le tirez un peu, il revient. Mais si vous le tirez beaucoup, évidemment, il ne revient plus. Et donc, cette théorie est limitée aux petites forces, c'est-à-dire aux chargements qui gardent le ressort dans son état d'intégrité initiale. Alors, le grand Big Bang de la physique, pour moi, c'est Newton. Pourquoi? Donc, vous connaissez tous les lois du point matériel, F égale m gamma. Vous connaissez tous les lois de la gravitation. Mais Newton a eu cette idée complètement incroyable de penser que c'est la même loi qui va gérer la chute d'une pomme de son pommier que du mouvement des planètes. Et que cette loi-là s'écrit de manière mathématique. C'est-à-dire, il a imaginé qu'il y a une loi mathématique qui gère le monde. Et cette loi-là, il l'explique pas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il dit pas d'où elle vient. Donc, il y a eu deux sauts, je dirais, épistémologiques très importants. C'est on sait, enfin, on admet que le monde peut être modélisé par les mathématiques, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est quand même, ça a été extrêmement violent pour l'époque. Certains chercheurs de l'époque, enfin scientifiques, ça ne s'appelait pas chercheurs, l'ont traité d'obscurantisme, de satanisme, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces forces qui s'exercent? Ça ne peut pas exister. Et donc, de cette démarche de mathématisation, on garde l'idée, et tout à l'heure, Françoise Prêteux l'a utilisé de manière presque inconsciente, c'est que quand on a un phénomène qu'on doit modéliser, eh bien, on plaque dessus un modèle mathématique et on pense que ça va marcher, et en fait, ça marche. Et puis, on continue finalement la même idée qui a été initiée par Newton. Donc, pour la mathématisation, donc c'est quelque chose qu'on va garder en plus de la mesure, c'est-à-dire de l'expérimentation. Et maintenant, je vais vous parler de la statique et de la vibration des poutres élastiques. Alors, il y a ces trois messieurs, Bernoulli, donc l'oncle de celui-ci, avec Euler. Vous connaissez Euler, le mathématicien. Ils étaient tous mathématiciens, mécaniciens, enfin, ils étaient tous un peu tout. Et en fait, ils se sont intéressés, parmi d'autres, à la flexion des poutres. Vous voyez, par exemple, j'ai une règle en plexiglas. Eh bien, si j'applique à un moment, elle va se fléchir. Et quand je la lâche, ben, elle va revenir à son état initial. Comment j'explique ça? Eh bien, ils ont fait des hypothèses sur le fait que dans une section, il y a une déformation qui est linéaire en fonction de l'épaisseur de la section. Et ils ont utilisé et la loi de Hooke et les lois fondamentales de la dynamique pour trouver les équations des poutres. Et donc, ils ont trouvé, comme ça, des équations qui vont gérer la dynamique des poutres. Et ce sont les mêmes équations, à peu de choses près, mais disons, initialement, c'est eux qui ont fait, qu'on utilise jusqu'à maintenant pour faire les dimensionnements et autres choses. Chose très remarquable. Donc, vous voyez à quelle date ces équations ont été établies. Eh bien, en fait, sur le moment, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, on s'en est pas servi. Quand est-ce qu'on est servi à peu près correctement pour la première fois? C'est quand Eiffel a construit sa tour et qu'il y avait des matériaux métalliques qui s'est déformé dans le domaine élastique, qu'il a été obligé de calculer avec la théorie, disons, des poutres. Parce qu'en fait, pour la plupart des constructions avant l'ère métallique, on s'en fichait des déplacements à faible force des structures. En fait, les structures étaient surtout considérées pour leur rupture. C'est-à-dire, on s'en fiche si la structure se déplace un peu. Ce qu'on veut, c'est qu'elle ne s'effondre pas. Et donc, il y a un illustre expérimentateur aussi qui a travaillé sur beaucoup de choses, l'électrostatique, etc., qui est Coulomb. Et il a identifié une loi très importante qui est la loi de frottement entre deux corps, qu'il a fait aussi expérimentalement, qu'il a identifié expérimentalement, et qui est à la base de toutes les méthodes de dimensionnement à la rupture, que ce soit les sols ou par exemple les structures en maçonnerie. Et d'ailleurs, il les a appliquées à la stabilité des murs ou des choses comme ça. Donc évidemment, cette loi, vous la connaissez, hein, elle dit que la force tangente ne peut pas dépasser un coefficient fois la force normale. Et quand vous prenez cette loi et vous la mettez en même temps que l'équilibre, bien vous arrivez à des critères de rupture. Et c'est ce que, d'une certaine manière, nous continuons à faire aujourd'hui, de manière un peu plus sophistiquée, certes, mais disons que l'idée ici vient de Coulomb. Maintenant, on va passer à un autre grand monsieur de je dirais, de la mécanique et de la physique, qui est Lagrange. Lagrange a fait un travail incroyable en considérant non pas des corps, des points matériels ou des solides rigides, il a considéré un système de solides rigides en interaction. Alors ce système, ça peut être N masses qui sont suspendues avec des ressorts, ça peut être aussi la fameuse bielle et manivelle que certains d'entre vous ont sans doute fait aussi dans leur En fonction de leur spécialité, ils ont étudié cette fameuse bielle manivelle. Que ça soit, alors, c'est la bielle à manivelle, vous avez un degré de liberté, et ici, vous avez un degré de liberté. L'apport de Lagrange, ça a été de dire, pour écrire les équations de la mécanique, donc les mêmes équations de Newton, en fait, il existe une fonction, un Lagrangien, qui est constituée de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle avec un sin moins. Et si je connais cette fonction des paramètres qui caractérisent la position de mon système, eh bien, je sais écrire les équations par cette formule qui est ici. Bon, peu importe ce qu'il y a dedans, vous aurez le temps de l'apprendre ultérieurement. Mais disons, la physique du système a été décrite par la connaissance d'une fonction qui est le Lagrangien. Et donc c'est le début d'une démarche extrêmement fructueuse, extrêmement foisonnante pour la physique en général, qui est de dire que, quelque part, la démarche énergétique, vous avez une énergie cinétique, une énergie potentielle, après on peut rajouter des énergies thermiques, etc., etc., eh bien vous avez en décrivant la physique à partir d'une énergie, vous pouvez avancer beaucoup dans votre description du système. Donc on est passé de, disons, de points matériels ou de solides à pouvoir gérer des systèmes. Avançons un peu dans le temps et regardons qu'est-ce qui s'est passé pour aller vers une théorie de l'élasticité. Je vous ai dit, vous vous souvenez, Hooke, vous déformez votre ressort, les points, le métal qui est dans votre ressort, il va se déformer. Et c'est l'accumulation de cette déformation qui va vous donner au total le déplacement en bout. Mais comment ça marche? Et donc, il y avait à l'époque l'idée, on va dire atomistique, c'est-à-dire on pensait que la matière était constituée d'atomes. Et donc, une façon de représenter ça, si vous considérez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de masses qui sont suspendues avec des ressorts entre eux, si vous calibrez les masses comme étant la masse totale divisée par n, et puis les raideurs étant l'inverse proportionnel à l'inverse de la longueur des intervalles, et vous injectez ça dans les équations d'équilibre de ce système-là, eh bien, quand n tend vers l'infini, donc quand vous avez plusieurs atomes, quand vous avez le nombre d'atomes qui est grandi, vous obtenez une équation continue qui dit que le déplacement en chaque point de la tige, eh bien, il vérifie cette équation dans laquelle vous voyez trois termes. Ça, c'est l'accélération. Donc, masse linéique par l'accélération. Vous avez les forces extérieures et vous avez un terme qui est dû à la déformation de la tige. Et donc, ce terme qui est lié à la dérivée, ici, à la dérivée seconde du déplacement. Donc, Navier, le fameux Navier, il a appliquer ce genre de raisonnement, non pas à une tige unidimensionnelle, mais il l'a appliqué à un réseau d'atomes. Il a dit, la matière, c'est un réseau d'atomes avec des ressorts. Il a calibré les masses et les raideurs de ressorts et il est arrivé à une équation assez compliquée qui est l'équation de Navier où vous avez toujours le terme d'accélération. Ici, U, c'est trois composantes. U, c'est un vecteur. Et vous avez les forces extérieures par unité de volume, et vous avez un terme qui fait intervenir des dérivées partielles, des déplacements U. Et il fait intervenir aussi deux coefficients, lambda et mu, qui caractérisent la rigidité du solide en question. Quand je dis qu'il caractérise la rigidité du solide en question, évidemment, si vous appliquez le même effort, disons règle en plexiglas ou en bois, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes déformations, parce que c'est pas du tout le même matériau constitutif. Donc, et les coefficients de Lamé vont vous donner cette quantité. En gros, ce sont les raideurs du matériau tridimensionnel. Donc voilà. Alors évidemment, Navier n'avait pas obtenu cette équation du premier coup. Il y a eu des tentatives, des améliorations par Poisson, Lamé, Clapeyron. Mais disons que c'est lui qui a eu le premier cette idée, et donc d'obtenir ces équations d'élasticité. Maintenant, un autre saut important, c'est la notion de contrainte. Vous vous souvenez, la pression de Pascal, c'est quoi? La pression, c'est de dire, j'ai une surface, sur cette surface, dans le fluide, j'ai des molécules qui sont dans la partie plus et dans la partie moins, et les forces qui s'exercent de la partie plus sur la partie moins sont normales, à cette surface. Dans un solide ou dans un fluide en mouvement, ce que dit Cauchy, la force ici, elle n'est pas normale, pas forcément normale, elle peut l'être, mais elle n'est pas forcément normale, mais c'est quelque chose qui s'exprime linéairement en fonction de n, et donc il y a une matrice sigma, qui est la contrainte, qui va relier cette force élémentaire à la normale qui la caractérise. Et donc, finalement, une fois qu'on écrit ça, en écrivant les équations toujours de Newton, d'équilibre, enfin de la dynamique de Newton, on obtient cette équation dans laquelle intervient, bah, ça ce sont les forces extérieures, la densité volumique de forces extérieures, ça c'est l'accélération, et vous avez divergence sigma ici. Mais du coup, quelle est la relation de ce sigma avec les déplacements? En fait, c'est en deux temps. Premièrement, on dit que la déformation, c'est la partie symétrique du gradient de U. Vous verrez ça plus tard, peu importe. Mais disons, c'est lié au déplacement qui a lieu. Et puis deuxièmement, on dit que ce sigma, cette contrainte-là, est liée à la déformation par la loi de Hooke qu'on a vue, c'est-à-dire que la contrainte dans un solide est liée à la déformation de manière linéaire. Et ce sont les coefficients lambda et mu qui caractérisent cette raideur. Pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi on ne fait pas directement ça? Sachant qu'effectivement, si... pardon, si vous injectez, il a un retard, c'est pour ça, excusez-moi. Donc, effectivement, si vous injectez epsilon dans sigma ici, vous injectez sigma là-dedans, vous allez retrouver la loi, l'équation de Navier. Mais quel est l'intérêt de distinguer maintenant ces trois équations? Eh bien, c'est parce que, justement, en dehors du régime élastique, en dehors du régime dans lequel vous déformez pas beaucoup votre solide, eh bien, le epsilon n'est pas vraiment, il n'a pas cette relation avec le déplacement. Donc, vous avez ce qu'on appelle des non-linéarités géométriques, c'est-à-dire que pour calculer la déformation, vous devez faire une autre formule que celle-là. Et puis surtout, la loi de Hooke n'est plus valable, c'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans un acier, vous mettez le sigma ici, vous mettez le epsilon ici, vous tirez et vous trouvez que effectivement, au début, c'est linéaire. Mais au bout d'un certain moment, ça commence à faire autre chose jusqu'à rupture ici. Donc, au bout d'un moment, ça rompt et donc on dépasse le cadre linéaire. Donc, les études, les recherches qui ont eu lieu après, ça a permis de donc étendre la mécanique à des lois qui ont des non-linéarités matérielles, en plasticité, viscoplasticité, etc. ou des non-linéarités géométriques. Ensuite, à quoi ça a servi les équations de la mécanique des milieux continus? À quoi ont-elles servi? À bâtir une théorie plus consistante, plus, disons, affirmée, des poutres et des plaques, en partant du fait que ces poutres et ces plaques sont constituées d'éléments tridimensionnels, élancé ou bien mince. Et donc, à partir de là, des chercheurs ont élaboré des théories de poutres et de plaques qui sont plus facilement calculables que les théories, pardon, que l'équation de Navier. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les équations de Navier, si vous me dites à quoi ça a servi, bah, pareil, immédiatement, à rien. À rien. Parce que, pourquoi? Parce que, vous regardez cette équation. Comment vous pouvez résoudre ça? Ben, on ne peut pas en fait. C'est beaucoup trop compliqué pour l'époque, donc on ne sait pas résoudre. Ou alors on sait résoudre dans des cas très simples, dans des cas où c'est cylindrique, où c'est sphérique, etc. Mais on ne peut pas, pour une structure réelle, résoudre ce problème. Et donc, ça a servi comme élément de base pour faire d'autres modélisations plus simples, des poutres, des plaques, qui... Ces modélisations-là ont été utilisées par Navier, pardon, Eiffel ou par d'autres au moment de l'essor de la fin du XIXe siècle et de l'industrie. Ensuite est arrivée l'aéronautique. Quand l'aéronautique est arrivée, il y a eu, au début, comme toujours, pas mal d'accidents, des avions sont tombés. Et parce qu'il y avait un phénomène qu'on n'avait pas pris en compte, c'était le phénomène de fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, dans une pièce métallique, il y a toujours des fissures ou des défauts. Et quand vous la sollicitez de manière cyclique, donc là vous dilatez, vous revenez sur place, etc. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans un trombone que vous avez sans doute fait une fois dans votre vie de casser. Et bien, quand vous répétez, au bout d'un moment, ça casse. Et donc, en fait, il y a eu toute une théorie qui date du début du XXe siècle. De comment on gère ces fissures et comment on les gère dans le cas de la fatigue. Ensuite, une autre branche très importante qui a été aussi initiée au XXe siècle, c'est l'étude des matériaux hétérogènes. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure quand je vous parlerai des recherches qu'on fait à Navier. Et il y a aussi une extension extraordinaire du champ de la mécanique à des phénomènes où il y a des couplages, c'est-à-dire que le solide, il n'est pas tout seul. Quand vous pensez à un sol, et bien dans un sol, il y a de l'eau, et de l'eau qui est elle-même sous pression et qui peut diffuser, qui peut s'évaporer, etc. Donc, la problématique des couplages dans les matériaux et les structures est extrêmement importante. Ensuite, il y a eu quelque chose de très très important qui est la numérisation, c'est-à-dire là, si vous suivez mon chemin, on a mesuré, donc on a fait des expérimentations, ensuite on a fait de la théorie, c'est-à-dire on a mathématisé ces expérimentations pour en rendre compte, et puis il y a eu à un moment donné, on a informatisé, c'est-à-dire que l'équation qui est celle-là, au lieu de la résoudre à la main, ou l'équation de Navier au lieu de la résoudre à la main, eh bien, on a inventé une méthode parmi d'autres, mais c'est la plus utilisée et c'est celle que vous trouverez dans tous les logiciels que vous allez utiliser dans votre parcours et dont on vous en a parlé hier. Eh bien, en fait, ces logiciels d'éléments finis sont une façon de discrétiser cette équation et de la représenter sous forme de matrice. Bon, peu importe le détail. La chose remarquable, c'est que la méthode des éléments finis a été inventée, en tout cas les premiers pas, ont été inventés dans les années 40 par des ingénieurs qui s'occupaient d'aéronautique aux États-Unis. Mais souvenez-vous, enfin pas souvenez-vous, mais dans les années 40, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc la méthode a été inventée avant l'invention des ordinateurs. Donc évidemment, elle est restée dans un bureau, on ne s'en servait pas. Donc toutes les missions spatiales, par exemple, vous pensez à des missions comme Apollo, etc., toute la frénésie spatiale des années 60, elle s'est faite sans calcul par éléments finis, elle s'est faite avec des méthodes où on considérait des masses et des ressorts, enfin, chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, notamment, il y a un monsieur Zinkevich qui a développé cette méthode quand les ordinateurs se sont développés, disons dans les années 60-70. Ça a donné des choses très croisées avec les mathématiciens appliqués, parce que finalement, ce n'est qu'une méthode de résolution d'une équation aux dérivées partielles. Et donc, comment le faire correctement? Eh bien, les mathématiciens appliqués, ceux-ci s'y sont mis. Donc, retenez bien, donc le triptyque, mesurer, mathématiser, informatiser. Donc voilà notre monde. Et quand je dis le triptyque, ça veut dire qu'on est acteur majeur sur les trois. C'est-à-dire on continue à faire des mesures, on continue à faire des théories et on continue à faire de l'informatique. Donc pour vous donner des exemples de notre recherche actuelle à Navier, donc je vais vous parler d'abord, enfin, je vais parler des matériaux composites dans l'aéronautique. Je vais parler du comportement mécanique des matériaux par l'approche multi-échelle. Je vous ai dit que j'en parlerai, donc vous verrez, c'est ce que ça veut dire. Mais je vais commencer par vous parler de quelque chose qui est l'estimation de la charge de ruine des structures par une méthode qui s'appelle le calcul à la rupture. Tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que c'est une méthode non linéaire. On n'est pas du tout dans le domaine linéaire. On vise la rupture, donc on est très loin des équations de Navier. Et il se trouve que cette recherche a été faite en collaboration avec une start-up qui s'appelle Strains, qui est en fait, pour la plupart des ingénieurs de cette start-up sont issus de l'école. Et qui collabore avec nous à travers des thèses depuis maintenant quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette méthode du calcul à la rupture? Donc, on fait toujours des éléments finis et on va aller calculer des structures du génie civil à leur point de rupture. Par exemple, on peut s'intéresser aux monuments historiques. Ce n'est pas le domaine économique le plus large, mais disons que ça fait, c'est très joli. Et on veut, par exemple, aider les entreprises qui s'occupent de la sauvegarde de ce patrimoine à calculer les ouvrages historiques en maçonnerie. Donc, vous avez ici une abbaye qui est en mauvais état et dont nos méthodes ont pu servir à calculer la stabilité. Donc, vous voyez, c'est en deux temps. On commence par produire les éléments finis qui vont mailler cette structure. Et puis, nos méthodes de calcul permettent de trouver le mécanisme de ruine sous son poids propre. Donc, ce genre de méthodes sont développées donc, actuellement ou il y a quelques années par notamment Jérémy Blayer, qui est aussi enseignant à l'école ici, et en partenariat avec la société Strains. Donc, maintenant, si on s'intéresse non pas aux structures en maçonnerie évidemment, l'impact économique est très faible, mais si on s'intéresse maintenant aux structures métalliques, il y a beaucoup de bâtiments modernes qui sont construits en structures métalliques. Vous avez ici, par exemple, le siège du groupe Le Monde, à côté de la gare d'Austerlitz. Donc, c'est un bâtiment qui est constitué donc d'assemblages, hein, de poutres métalliques et de planchers. Et faire ce calcul à la rupture de ce bâtiment en suivant une méthode 3D, c'est hors de portée de nos moyens de calcul actuels. Donc, on ne sait pas le faire. On ne sait pas tout faire. Donc, l'idée d'une thèse qui est actuellement en cours, toujours avec la société Strains, c'est de coupler un calcul 1D, c'est-à-dire où chaque poutre est calculée 1D, et de faire du calcul 3D là où il y a des problèmes. Où est-ce qu'il y a des problèmes? Eh bien, les problèmes ont lieu quand vous assemblez ces éléments métalliques en mettant des boulons. Et en serrant les boulons, vous devez vous assurer que ces boulons ne lâchent pas. Donc, je vous présente par exemple une simulation tridimensionnelle de l'arrachage d'une pièce assemblée comme ça par boulonnage. Donc là, actuellement, ce que vous voyez, c'est que c'est plutôt le matériau qui va céder, les boulons ne cèdent pas, en fonction du dimensionnement. Des fois, c'est le boulon qui s'arrache et ce n'est pas le métal qui se déchire. Maintenant, on peut aussi décliner ce genre de méthode à des situations très particulières où on a des pièces massives en béton armé qu'on ne sait pas calculer par les méthodes classiques. Et notre laboratoire, avec la société Strain, donc, propose une modélisation spécifique de ces structures massives. Par exemple, vous avez cet élément ici qui va se déformer, va se rompre de cette manière-là, et on sait calculer son élément, la force ultime qui cause cette rupture. Donc maintenant que je vous ai parlé calcul de structure, je vais revenir à un de nos soucis majeurs, c'est de mesurer. Et on est intéressé au laboratoire Navier par aussi l'étude des matériaux et à partir de la microstructure. Donc l'idée, c'est comment se comporte un matériau? Eh bien, je vais regarder ce qu'il y a dedans, je vais modéliser ce qu'il y a dedans, et avec ça, je vais savoir comment il se comporte. Donc en l'occurrence, on avait une collaboration avec EDF pour leur maquette. Donc on vous a déjà parlé du fluage du béton. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tenue des centrales nucléaires, la sécurité des centrales nucléaires, en tout cas, comment dire, la structure qui assure le confinement est sujette à fluage. Et cette structure qui est sujette à fluage, le fluage dépend du matériau. Donc EDF est venu nous dire, écoutez, on ne sait pas comment ces matériaux vont fluer. Est-ce que vous pouvez nous dire, en examinant la microstructure, comment le fluage est obtenu? Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on dispose au laboratoire d'un microtomographe à rayon X, c'est une sorte d'appareil photo un peu sophistiqué, on va dire ça comme ça, qui va vous donner des photos à l'échelle du micron en trois dimensions. Alors, La technique, si ça, quelqu'un est intéressé, je peux lui faire proposer une visite du microtomographe. Mais disons, c'est une petite bête qui coûte 1 million d'euros, qui est protégée par, pour que les rayons X ne sortent pas, etc. Donc, c'est pas simple du tout. Beaucoup d'investissements là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision? Ben, vous avez ici une idée de ce qu'on peut voir à l'intérieur du béton en le passant au microtomographe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un échantillon qui a été numérisé en 3D. Et comme on ne peut pas voir en 3D, ce qu'on vous a présenté ici, ce sont des sections successives, comme si vous y alliez parcourir ça, et puis ça revient. Et donc, on peut caractériser l'arrangement granulaire qu'il y a dedans. Alors ici, vous notez, comme c'est une technique, donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a des grains qu'on a du mal à voir, parce que la technique de microtomographie consiste à envoyer des rayons X, et c'est les coefficients d'absorption de ces rayons X qui vous permettent de tracer ces grains. Donc ces grains que vous voyez en gris, en fait, sont de nature chimique différente des grains qui sont en blanc. Ça, c'est du calcaire, ça, c'est du silicium. Enfin, il y a du silicium dedans. Donc voilà. Alors, donc une fois qu'on a caractérisé la microstructure d'un matériau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on simule, c'est-à-dire on mathématise, et on va aller générer une sorte de clone virtuel de notre matériau. C'est-à-dire, on va simuler les granulats qui sont disposés selon effectivement une granulométrie, une disposition qui ressemble beaucoup à ce qui est dans le matériau réel. Donc, une fois qu'on a généré cet amas granulaire, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Ben, on peut faire des calculs de mécanique dessus pour voir quelle est la réponse de cet amas en fonction de la répartition des granulats. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous avez cette enceinte de confinement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux faire un calcul élément fini à ce niveau-là, mais en chaque point de l'enfinement, je suis capable de relocaliser les contraintes au niveau d'un élément de volume et, par exemple ici, au niveau des granulats, et de prévoir pour chaque élément qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 12 ans, 32 ans, 62 ans, dû au phénomène de fluage, et pour essayer de voir si ces matériaux vont se rompre ou pas à ce niveau. Je vous ai parlé de nos méthodes de calcul et de simulation. Je vous ai parlé de l'approche, je dirais, multi-échelle pour les matériaux. Là, je vous ai parlé de quelque chose qui est plus industriel. Et les slides que je vais vous présenter m'ont été prêtés par un collègue de l'ONERA, Frédéric Lorrain. Donc l'ONERA, c'est l'Office national des études et recherches aérospatiales. Donc on collabore avec Frédéric et avec la société Dassault dans le cadre d'une thèse sur la prévision des impacts dans les matériaux composites. Donc c'est voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un matériau composite? Eh bien, pour être très simple, hein, ce sont des fibres qui sont de très grande qualité, qui sont pour la plupart du temps des fibres en carbone, qui sont noyées dans de la résine. La résine, c'est quoi? C'est de la colle. Et vous allez empiler vos couches de fibres dans différentes directions pour que vous couvriez la résistance et les propriétés élastiques dans les différentes résines, dans les différentes directions. Vous mettez tout ça dans une sorte de four, et c'est un four en fait, parce que ça, mais c'est un four dans lequel on peut mettre des pressions élevées. Donc, on va dire c'est un four sous pression, ça s'appelle un autoclave. Donc, vous avez ici ce qui est dans l'usine d'Airbus, voilà ce qu'ils ont. Ils ont d'énormes fours. Donc vous mettez les pièces, vous concevez ces pièces avec les composites, vous les mettez dans le four, et puis vous sortez des pièces dans votre avion. Alors, pourquoi on s'intéresse aux matériaux composites? Donc c'est très important Donc là, on a parlé écologie, développement durable, etc. Évidemment, la consommation de kérosène est extrêmement importante dans les avions. Et l'idée, c'est d'alléger évidemment les avions pour pouvoir consommer moins de kérosène. Donc, vous voyez ici en rouge et en bleu, bon, les deux concurrents, hein, les Boeing et les Airbus, quelle est la part de composite dans leurs avions au fur et à mesure des années. Bon, avant, les avions étaient métalliques pour leur, hein, c'est, donc, on a commencé par du métal, métal, peut-être acier, ensuite c'était aluminium, ensuite c'est maintenant les composites. Et donc, vous voyez, c'est très, très important. Donc, plus de la moitié de l'avion, ce sont des matériaux composites. Et donc, il faut, maîtriser ces matériaux composites. Alors, ces matériaux composites ont de très grandes propriétés de légèreté, de ce qui les rend très utiles par rapport à. Mais ils ont des défauts. Ces matériaux sont sensibles aux singularités. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité? Bah, c'est un trou, en fait. Vous avez une pièce, vous voulez l'assembler à une autre pièce, bah, vous faites un trou et vous mettez un boulon. Eh bien, quand vous mettez un trou dans un matériau composite, donc vous voyez. Là, sa résistance est 40, 450 MPa. MPa, PA, c'est Pascal, hein? Donc c'est mégapascal. Quand vous mettez ce trou, eh bien, ça baisse jusqu'à 250 mégapascal. Donc ça, vous perdez presque la moitié de votre résistance. Alors que quand c'est une pièce en aluminium, c'est toujours les 450 MPa. Vous mettez le trou, eh bien, ça change presque pas. Vous voyez pas du tout l'effet du trou dans les structures métalliques. Évidemment, l'avantage du composite, c'est qu'il résiste mieux à la fatigue que l'aluminium. Donc, on va quand même utiliser les composites. Donc, on a un problème avec ces matériaux. Dès qu'il y a un défaut, eh ben, leurs propriétés chutent énormément. Donc, le contrôle des défauts dans les matériaux composites est absolument crucial pour l'industrie aéronautique. L'autre faiblesse, je dirais, des matériaux composites, ce sont les problèmes d'impact. C'est-à-dire que, et en général, ce n'est pas volontaire. On ne tape pas sur l'avion volontairement. Alors, c'est quoi les impacts dans un avion? Bah, vous avez la foudre, vous avez des oiseaux, vous avez des accidents dus au transport ou au stockage des bagages, vous avez des débris qui peuvent taper l'avion, si vous vous souvenez. L'accident du Concorde, c'était juste un débris qui a percé le réservoir, donc qui était sur. Et donc finalement, la problématique de comment je caractérise l'impact, un impact sur les matériaux composites, c'est un problème extraordinairement difficile. On a un doctorant, je ne sais pas s'il est là, c'est Paul Bouteiller, qui travaille avec nous, avec Jérémy, avec Dassault et avec l'ONERA pour étudier ces phénomènes d'impact par des modélisations sophistiquées. Étant donné ces défauts, étant donné ces faiblesses, eh bien, la certification dans l'aéronautique se fait de manière encore aujourd'hui expérimentale. C'est-à-dire, on fait beaucoup plus d'expériences, c'est-à-dire, on revient à Galilée qui cassait ses poutres. Eh bien, on le fait actuellement comme ça. Évidemment, on ne fait pas que ça, mais que ça soit à tous les niveaux de la pyramide de certification, des petites pièces, donc là vous voyez les trous. Si vous allez plus loin, eh bien vous avez par exemple un coût comme ça à calculer, eh bien vous le calculez, mais vous le testez parce que vous ne faites pas confiance à votre calcul. Vous allez plus loin, maintenant vous prenez une aile d'avion, eh bien vous faites le calcul, mais vous prenez l'aile d'avion et vous la triturez parce que sinon vous n'avez pas la sécurité requise. Vous avez ici la jonction entre l'aile et le fuselage. Et puis, vous allez carrément étudier tout le fuselage. Alors, vous le faites subir des tests de chute pour voir s'il résiste ou pas. Et vous allez carrément.
We have in front
Voilà.
of us more than 2,500 tons of steel. This is the cage of the bird that we have in front of us. What is planned in this test campaign is to load the specimen mechanically and also to pressurize it. We will go to the extremes to check the structural behavior of the bird. When we will load it, so we will pull upward the wing, pull downward, pull the fuselage. In all the critical situations, we have installed 12,000 sensors on the specimen. So you can imagine between the offloading position of the wing, when we compensate simply the weight of the bird, and...
Bon, c'est pas c'est tout le film, mais vous voyez ce qui est impressionnant. Donc c'est quand même extraordinaire de dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un avion? Enfin, d'un point de vue structural, je la fais courte, c'est juste un tube dans lequel vous avez deux poutres qui sont encastrées, qui sont les ailes. C'est ça. Eh bien, on n'est pas capable d'assurer, par le seul calcul que ce truc-là tient, on est obligé, jusqu'à aujourd'hui, de le rentrer dans une sorte de machine géante à triturer les ailes pour pouvoir certifier de la sécurité de l'avion. Donc, c'est vous dire que le chemin est très long avant qu'on puisse... Donc, actuellement, on est, si vous voulez... En tout cas, dans l'aéronautique, vous avez ici, vous avez ici la part expérimentale à tous les niveaux, donc des petites pièces un peu plus grandes, etc. Qu'est-ce qu'on essaye expérimentalement? Et vous avez qu'est-ce qu'on calcule? Alors, ce qu'on voudrait, c'est aller plutôt comme ça, c'est-à-dire faire beaucoup plus de calculs que d'essais, parce qu'évidemment, les essais, ça coûte très cher. Et donc, remplacer le plus possible les essais par du calcul. Donc, pour ça, on a besoin de quoi? Ben, on a besoin de modéliser. Donc, on revient toujours le triptyque, donc mesurer, mathématiser et, je dirais, informatiser. Donc, on a besoin de ça, parce que pour l'instant, ça ne marche pas suffisamment bien pour garantir la sécurité. Et on a surtout besoin d'ingénieurs qui sont capables de faire ça, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc voilà l'état actuel, je dirais, de mon point de vue, en tout cas c'est une vue rapide, de ce qu'on fait avec la mécanique des matériaux, des structures. Et on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir à l'ère du machine learning. Alors, juste pour que vous vous rendez compte de ce dont on parle, donc il y a actuellement 1000 milliards de capteurs qui captent des tas de choses dans le monde, d'accord? Et on pense que dans les 5 ans à venir, il va y avoir 50 000 milliards de caméras. On ne parle pas de tous les capteurs, simplement des caméras. Donc vous imaginez le nombre incroyable, gigantesque de données que ça génère et que ça va générer. En même temps, on a des algorithmes efficaces pour traiter ces données, mais qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, quand je discute avec mes collègues mathématiciens pour dire, mais comment ça fonctionne ce... En fait, la réponse est, essaye, tu verras, ça marche. Voilà. Bon, mais on ne comprend pas pourquoi ça marche vraiment comme ça. Et pour chaque problème, il faut se faire son marché sur les logiciels qui font ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Je vous donne un exemple, juste pour... pas démystifier, mais juste pour que vous sachiez de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique ou l'apprentissage Vous prenez par exemple l'écriture, les chiffres de 0 à 9. Voilà, vous voulez que la poste détecte automatiquement ces chiffres parce que voilà, sur l'adresse, vous avez besoin de détecter ça. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez... Vous dites à des gens d'écrire, 0 jusqu'à 9, voilà, ils écrivent. Vous prenez un panel de ce qui a été écrit à la main. Vous donnez ça à une machine en données, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des données labellisées, c'est-à-dire ce sont des images de chiffres écrits à la main, dont on sait qu'est-ce qu'ils représentent. C'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. OK? Donc, et on dit à l'algorithme, ici, cet algorithme a un certain nombre de paramètres à calibrer. calibre-les de manière à ce que, à minimiser l'erreur. C'est-à-dire à ce que tu vas donner comme résultat soit le plus proche possible de la réalité. Une fois qu'il a fait ça, c'est sa phase apprentissage, on va lui donner d'autres chiffres écrits à la main et qui ne sont pas labellisés et on va voir s'il va deviner le label correct, 0, 1, 2, etc. Et en fait, ça marche très bien. OK. Alors, l'algorithme en question ici, c'est un algorithme neuronal. Actuellement, le machin neuronal de Google qui fait la traduction du chinois à l'anglais, il comporte 80 milliards de paramètres à optimiser. Il faut absolument gigantesque un problème d'optimisation. Mais in fine, si vous avez un traducteur fiable qui passe du chinois à l'anglais, ben, il en suffit un pour l'utilisation de 7 milliards d'individus. Donc on paie des investissements colossaux parce qu'il y a un produit qui va servir à tout le monde. D'accord ? C'est absolument pas le cas pour nos disciplines à nous, pour la mécanique. On ne peut pas se permettre des investissements gigantesques dans les données, etc. Donc, comment on va gérer la situation ? Bon, je vous donne un exemple d'une situation concrète, c'est-à-dire c'est un contrat ou un début de contrat qu'on a eu avec la SNCF, avec nos amis de l'équipe géotechnique. Les gens de la SNCF sont venus nous dire on a 1576 tunnels qui ont à peu près 128 ans d'âge en moyenne et il faut entretenir pour que ces tunnels ne se cassent pas la figure sur les trains. Et donc, comment on fait ça actuellement? Eh bien, on envoie des gens régulièrement faire des relevés. Il y a une fissure ici, il y a une fuite d'eau, etc. Et on a des données sur 20 ans. Et en fonction de ces données, on fait une note, et en fonction de la note, on répare ou on répare pas. Donc, quelle était la demande de la SNCF? C'est de dire, est-ce que, par intelligence artificielle, on peut pas simplement transformer ces données en résultats automatiques qui, dès que j'ai ces données-là, eh ben, je sais ce qu'il y a à faire et ce qui va se passer dans les 10 ans à venir. Donc, c'est typique des sujets qu'on a actuellement qui nous arrivent de la part de nos partenaires industriels. Donc, comment on traite ce genre de sujet? Il y a deux choses à éviter de mon point de vue. Premièrement, ignorer les techniques du machine learning. C'est-à-dire de faire comme si de rien n'était. On va continuer comme avant à faire nos méthodes de calcul, etc. pour avancer parce que ça a donné déjà de bonnes performances. On va continuer comme ça. Donc, considérer que c'est un effet de mode, ignorer. On passe à autre chose. L'autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est ignorer, de l'autre côté, les acquis de la mécanique des matériaux et des structures. Parce que le tunnel, contrairement à ce qui est écrit à la main, on l'a fabriqué, et on ne l'a pas fabriqué n'importe comment. On a des règles sur lesquelles on s'est appuyé, etc. Donc on sait à peu près comment il va fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt articuler ce qu'on sait par la mécanique des milieux, continue par la mécanique des matériaux et des structures, avec les nouvelles technologies. Donc c'est de croiser ces deux disciplines, pour le faire. Donc d'abord, on peut augmenter le nombre de données. Donc je pense que toutes les entreprises, et vous avez entendu hier le directeur, le président de la CETEC vous le dire, augmentent le recueil des données pour avoir l'information. Mais il faut en même temps, je viens de le dire là pour les histoires aéronautiques, il faut qu'on soit encore plus performant sur la fiabilité de la simulation numérique. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on peut générer des données virtuelles. Contrairement à reconnaître quelque chose, un chiffre écrit à la main, on a une connaissance de comment les gens construisent, comment on a construit, etc. Et avec ça, on peut enrichir nos simulations, nos données par des simulations virtuelles. Et donc, ce qu'il faut trouver maintenant, ce sont les meilleures stratégies de dialogue entre les données expérimentales, les données virtuelles et les algorithmes d'apprentissage. On est en train d'y travailler maintenant, parce que c'est très récent, la préoccupation est très récente, Et c'est un sujet, je dirais, d'actualité au laboratoire navier, mais pas que, de tous les acteurs de la mécanique, y compris les acteurs industriels. Donc, pour résumer, on a vu qu'actuellement, il y a trois triptyques, je dirais. Donc, mesurer, donc c'est l'activité expérimentale. Mathématiser, c'est la théorie. C'est très important de garder une capacité à faire des théories consistantes. Informatiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une théorie, ben, il faut être capable de faire le calcul numérique qui l'accompagne. Et puis, un nouveau paradigme, effectivement, il faut apprendre. Qu'est-ce que je mets dans le mot apprendre? C'est-à-dire, une fois que vous avez un système que vous avez modélisé de manière correcte, eh bien, il faut aller balayer tous les paramètres possibles que ce système peut apprendre, peut avoir, pour avoir la réponse à ce système-là. Et ça doit être fait une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, vous imaginez, bon, là, je me projette vraiment dans l'avenir, imaginez que le tunnel, vous allez envoyer des drones, au lieu d'envoyer des gens prélever les fissures, vous envoyez des drones, les drones sont capables d'identifier les défauts, ils disent, ben voilà, là il y a une fissure, il y a une fuite d'eau, etc. Ils envoient ces données à un logiciel, le logiciel dit, il faut telle ou telle réparation, parce qu'il sait identifier les... Et il envoie des robots réparer le tunnel. Donc l'avenir peut être fait comme ça. Je ne sais pas ce qui sera l'avenir, mais il peut être fait comme ça. Voilà. Merci pour votre attention.
Voilà, Karam Sab est avec nous pour répondre à vos questions.
Bon, vous avez indiqué tout à l'heure que notre objectif était de minimiser les mesures. Bah, est-ce qu'il n'existe pas une limite concernant la technologie de modélisation? Et si, par exemple, après avoir créé ces drones qui vont découvrir les tunnels, une fissure apparaît juste après, bah, est-ce qu'il y a genre une limite pour...
Non, vous avez tout à fait raison de poser la question en ces termes, parce qu'elle se pose en ces termes. C'est-à-dire que quand on dit on veut augmenter la modélisation, la part de modélisation, c'est parce que justement, on est en butée actuellement sur ce qu'on sait modéliser. Et comme on ne sait pas donner une plus grande fiabilité, une fiabilité suffisante à nos modélisations, il n'y a pas le choix, on passe aux essais. Quand on dit qu'on veut diminuer la part des essais, c'est un calcul économique. Tout simplement, un essai, ça coûte beaucoup plus cher qu'une simulation, et donc on préfère ne pas... c'est toujours, si vous voulez, la dimension économique est majeure, mais je dirais depuis le début. Prenez Notre-Dame de Paris, d'accord? Magnifique, enfin, elle est toujours magnifique, mais bon, okay. Je ferme la parenthèse, mais Notre-Dame de Paris, elle s'est pas faite avec des calculs éléments finis, d'accord? Mais ça a pris 200 ans, je crois, au moins, ça a fait je sais pas combien de morts parmi les ouvriers, etc. Et donc l'enjeu, à la limite, même sans science, on pourrait construire, si vous voulez. Mais ça mettrait tellement de temps, ça serait tellement risqué, ça serait tellement pas optimal comme méthode que le jeu, c'est de trouver une optimisation entre ce qu'on sait faire, les exigences de sécurité, les exigences écologiques, qui sont très importantes. Là, vous avez eu hier... si on a une solution qui est écologiquement néfaste, ben, je pense que dans le monde actuel, on ne va pas la prendre, même si elle est rapide techniquement, etc. Donc si vous voulez, c'est une balance, et cette balance-là, elle se fait, et c'est pour ça que notre partenariat avec les industriels est très important, au sein des entreprises, qui, il faut qu'elles tournent, il faut qu'elles soient économiquement viables, etc.
Vous avez parlé de réseau de neurones tout à l'heure.
Oui.
Mais généralement, quand on parle de réseau de neurones, on parle aussi beaucoup de gros datasets, c'est-à-dire beaucoup de données. Et oui. Comment on fait pour obtenir autant de données dans des domaines comme la mécanique, en fait?
Alors,
est-ce qu'on est obligé de faire appel forcément à des simulations pour justement donner plus de choses dans le dataset?
Vous avez tout à fait raison. Le problème, ce sont les données. D'accord? Donc, si on veut appliquer les techniques de machine learning, il nous faut générer des données. Donc les données, comment on peut les faire? On peut aller mesurer. Donc là, par exemple, avec nos collègues de la SNCF, ils ont une base de données. Bon, maintenant, elle est suffisante, elle n'est pas suffisante, je ne sais pas. Mais on a la simulation. C'est-à-dire que on a une sorte de triangle. Vous avez les données que vous avez, que vous pouvez augmenter. Vous avez des simulations que vous pouvez calibrer avec les données, qui peuvent engendrer d'autres données, qui sont virtuelles, mais qui sont validées. Et tout ça, noyé dans, je dirais, un environnement d'apprentissage, pour qu'in fine, vous ayez le résultat que vous avez. Donc, si vous voulez, c'est la production de données virtuelles. Mais quand on dit virtuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des données sur lesquelles on maîtrise quand même, qui ont c'est pour ça qu'il faut améliorer la simulation. Si je fais des données virtuelles mais qui n'ont aucun sens, évidemment, c'est bidon. Je fais du bidon. D'accord? Donc il faut avoir des données crédibles. D'accord? Donc en gros, vous avez une part d'aléas que vous connaissez pas. Vous avez une part de choses que vous connaissez et c'est ce qui est modélisé. C'est ça que vous allez encoder dans votre modélisation. Il faut que votre modélisation soit la plus performante possible. Et c'est le mariage des trois dans le cadre de ces techniques de machine learning qui va nous permettre de faire un saut. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Je peux vous assurer que actuellement, ce sont des recherches, des sujets de recherche. Moi, je demande à tous mes doctorants et aux collègues avec lesquels je travaille on est en train de s'y mettre, si vous voulez.
Oui, bonjour. Ma question porte sur le machine learning dans la recherche en général. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour un scientifique? Vous avez dit on a des données d'entrée, on sait pas trop ce qui se passe au milieu, puis on a des données de sortie qui sont valides. Est-ce que c'est pas un peu dur d'abandonner la partie où on comprend les choses pour avoir des résultats?
Je suis d'accord avec ce que vous dites et on va pas le faire. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé de Pascal. Pascal, quelqu'un de très intelligent, il a eu l'idée de la pression atmosphérique avant d'avoir les données. Il a été tester son appareil à plusieurs altitudes et il a vu qu'effectivement son idée était corroborée par les données. Évidemment, si je mets des capteurs partout, et d'ailleurs c'est le cas, les machines learning vont me dire que c'est corrélé. Plus je suis haut, moins ma colonne de mercure va être haute, et puis je vais avoir la règle de corrélation, mais j'aurais rien compris. Donc ce qu'il faut, c'est justement, et c'est ça le défi qu'on a devant nous en tant que scientifiques, et je dirais ça dépasse largement la mécanique, c'est vraiment toutes les sciences de l'ingénieur, c'est comment intégrer ce qu'on sait de manière certaine, d'accord, F égale M gamma, on le sait. C'est pas la peine de demander à des capteurs de redécouvrir que F égale M gamma. Bon. Mais en revanche, il y a des paramètres qui sont aléatoires, intrinsèquement aléatoires, des données sur les matériaux, des choses comme ça, qui peuvent être encodées dans le reste. Et si vous voulez, si je reprends l'exemple de l'écriture manuelle des chiffres. Si les gens avaient été parfaits, ils écriraient les chiffres comme des caractères imprimés. D'accord? Mais évidemment, ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'impriment pas les chiffres. Ils ne dessinent pas les chiffres de manière. Donc, ils font une variation aléatoire par rapport à cette donnée de base. Et c'est ça qui est capté très efficacement par le machine learning. Nous, les scientifiques, on sait des choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc il faut qu'on, quelque part, dise à ces algorithmes, ça on le sait, vous en tenez compte, et ce qu'on ne sait pas, ce qui est aléatoire, c'est ça qu'il faut modéliser. Donc l'enjeu, il est vraiment de cette nature-là.
Bonjour monsieur, ma question suit un peu la question précédente. On est au balbutiement du machine learning en ce moment. Est-ce qu'il ne serait pas trop dangereux d'augmenter la part que l'on donne au machine learning par rapport à la part de test, notamment si on prenait les débuts des ordinateurs quand la NASA a lancé le premier homme dans la Lune. Le jour précédent, l'ordinateur n'avait pas fourni les bons résultats pour le calcul, et le jour suivant, si. Est-ce que justement, parce que sur le schéma que vous avez montré, vous voulez passer à plus de simulations que de tests, pour un impact économique, évidemment. Mais le problème, c'est est-ce que cela ne nuit pas beaucoup trop à la sécurité ?
En fait, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que on ne transigera pas sur la sécurité. Je pense que dans le monde, tout va vers une plus grande... une inacceptation des accidents. C'est-à-dire que quand il y a un accident, c'est vraiment... c'est inacceptable. Donc, ça, on ne reviendra pas dessus. Enfin, je ne pense pas qu'on revienne dessus. On ne sait jamais, mais ça, je ne pense pas qu'on revienne dessus. Donc, quand je dis on augmente la fiabilité des calculs, eh bien, c'est une augmentation validée par des données expérimentales. C'est pas une augmentation, c'est pas une prise de risque supplémentaire. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, vous augmentez le niveau d'exigence de sécurité, vous n'avez pas augmenté suffisamment la fiabilité de vos calculs, donc vous dites, je fais des essais parce que je ne sais pas faire autrement. Il faut augmenter suffisamment la fiabilité de votre calcul. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter la fiabilité de votre calcul? C'est-à-dire, vous faites un calcul sur une pièce, vous avez la garantie que cette pièce va tourner. Aussi, vous avez la même garantie que si vous l'avez essayé. C'est ça qu'il faut atteindre. Et donc, on n'en est pas complètement là. Alors, il y a quelque chose qu'il faut aussi admettre, c'est qu'on n'abandonnera jamais les mesures expérimentales de validation. Il faut toujours une validation. On n'arrivera jamais au virtuel complet, mais actuellement, vu les enjeux, eh bien, on pense que la part du virtuel est encore, on peut encore s'améliorer beaucoup sur la part du virtuel, y compris du machine learning, qui est en définitive juste une méthode numérique nouvelle, mais c'est juste une méthode numérique nouvelle qui a beaucoup de potentiel, mais voilà. Donc il faut valider, qu'il faut...
Du coup, une question qui suit celle-ci. Est-ce que les entreprises ne risquent pas d'être trop attirées par l'impact économique que ça va avoir sur leurs finances et que la technologie ne soit pas prête au moment où elles vont quand même décider de l'utiliser parce que ce n'est plus viable de faire des tests au niveau économique? Est-ce que les chercheurs peuvent garantir que les entreprises ont le niveau de sécurité nécessaire au moment où elles vont utiliser la technologie que vous aurez mis en place?
Si vous voulez, une constante, c'est qu'entre un moment où je dirais une recherche devient acceptée dans le monde de la recherche, avant qu'elle ne passe aux entreprises, il faut beaucoup beaucoup de temps. Donc tout simplement parce qu'il y a des intérêts économiques, des inerties intellectuelles, c'est que les gens qui sont dans les entreprises ne sont pas formés. Juste pour être clair, nous-mêmes chercheurs, donc notre métier, c'est d'être au taquet, je dirais, en matière de par notre discipline. On ne sait pas actuellement comment traiter ce sujet. D'accord ? On ne sait pas le faire. Donc, quand on saura, peut-être dans 10 ans, même 5 ans, enfin, on sera sûr de notre coût, après, il faut convaincre les entreprises qu'on est suffisamment certain, etc. Mais donc, les entreprises ne peuvent pas sauter comme ça. C'est pas. Donc vous avez vu hier le savoir-faire de la société d'ingénierie CETEC, donc avec son président, son PDG qui vous a fait un exposé. De ce que je sais, c'est que actuellement dans les entreprises d'ingénierie, 95% des calculs sont encore des calculs élastiques, linéaires, élastiques. Alors que pourquoi? Parce que c'est plus simple à mettre en œuvre. Et ça, il y a un coût à faire un calcul compliqué, c'est qu'il faut que la personne maîtrise, il faut une fiabilité, etc. Donc Si vous voulez, avant que ça ne pénètre véritablement les entreprises, du point de vue des calculs de structure, il y a du temps. Il y a vraiment du temps, c'est pas... Alors, je modère immédiatement ce que je viens de vous dire, parce que les choses vont extrêmement vite en ce moment. Et donc, nous, il faut qu'on s'adapte, enfin, pas qu'on s'adapte, il faut qu'on se saisisse de cette question au niveau de la recherche, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des laboratoires de recherche dans les écoles pour que on puisse être un relais de ce qui se fait de nouveau auprès de vous, la nouvelle génération, etc. Donc, et une fois qu'on a quelque chose, je dirais, de relativement assuré, on peut essayer d'aller voir les entreprises, etc. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais les gens ne feront pas n'importe quoi. Enfin,